Bonsoir alors.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir avec José et Michel et moi-même Jean-Mathias. On va vous parler ce soir de deux petits livres qui parlent de punk. Alors le premier, c'est José qui va vous en parler plus longuement. Il s'appelle Do It Yourself, sous-titré Autodétermination et culture punk. C'est un petit livre qui a été édité donc chez le Passager clandestin en 2012, donc c'est tout récent. Et José nous en dit le plus grand bien visiblement. Et Linky Pete, c'est Hey Ho, Let's Go. Et ensuite 1, 2, 3, 4.
Ça y est, c'était mon intro.
Voilà, bon, alors ça, c'est pour vous situer un peu la chose. Et le deuxième bouquin sur sensiblement le même thème dont on voulait vous parler, mais on sera plus rapide parce que on l'a moins apprécié. C'est un livre déjà un peu plus ancien qui date de 2003-2004, enfin dont la traduction date de 2003-2004, qui s'appelle La philosophie du punk de Craig O'Hara et qui est sous-titré Histoire d'une révolte culturelle. C'est aux éditions Ritrut. Voilà, donc c'est la thématique du soir. La pensée du punk, on pourrait dire ça comme ça, José.
Ah bah, ton bouquin dit carrément la philosophie.
La philosophie, allons-y, n'ayons pas peur des mots. Donc on va commencer par peut-être le tien.
Le do it yourself, là, c'est plus, ça parle plus d'économie hein, que de philosophie. C'est un peu plutôt l'économie du punk et la manière de faire en dehors, on parle de l'économie, on va voir ça un petit peu en détail.
Et comment monter son entreprise punk.
C'est ça, d'accord. Sa petite entreprise. Bah justement, donc, on n'a pas parlé de l'auteur, ce Fabien Hein. Ou un, je ne sais pas comment ça se dit, mais Fabien un, ça fait bizarre, H-E-I-N. Il est maître de conférences à l'Université de Lorraine et chercheur au laboratoire lorrain de sciences sociales. Et il a publié son livre d'avant, c'était Ma petite entreprise, sociologie du système D. Voilà. Donc là, je rappelle, on parle de do it yourself, autodétermination et culture punk, donc publié cette année. Comme l'a dit Jean-Mathias, l'exergue dit tout, hein. Hey ho, let's go des Ramones et 1, 2, 3, 4 hein, de Didier Ramones, hein, c'est ses meilleures paroles, je pense. Mais on peut aller un petit peu plus loin parce qu'il y a encore une autre exergue
de sens, en tout cas.
D'un autre chanteur punk, je crois, qui s'appelle Thucydide. Ah. Je ne sais pas de quel groupe, hein, je ne peux pas dire. Qui dit il faut choisir, se reposer ou être libre. Voilà. Donc déjà, tout est dit. Voilà, bonsoir. Alors, le do-it-yourself, déjà, c'est trois lettres, D-I-Y, hein, ça veut dire fais-le toi-même. Alors, déjà, pour éviter toutes les vannes, hein, c'est pas tu me fais un café, non, fais-le toi-même. Non, c'est pas ça l'esprit, on n'est pas dans le trip égoïste, au contraire, on va voir ça en détail. Do-it-yourself, ça veut dire fais-le toi-même, fais-le par toi-même et pas forcément pour toi-même. Alors dans ce petit bouquin donc d'un sociologue intéressé par le milieu punk français et international, il retrace d'abord un historique de ce qui s'est fait, d'où vient le do it yourself, etc. Et puis ensuite il analyse l'économie do it yourself. Est-ce que c'est une économie à part? Est-ce que c'est une économie dans l'économie, etc. Donc on va voir ça. Déjà il commence par recontextualiser un petit peu le do it yourself, l'émergence du do it yourself et du punk rock en parallèle. Alors déjà, c'est un auteur qui n'est pas non plus complètement idiot. Il voit bien que le do-it-yourself, ça n'a pas été inventé par les punks, évidemment. J'ai envie de dire de tout temps, mais les profs de philo me diront que c'est pas une bonne intro. Des gens ont fait des choses par eux-mêmes, forcément. Donc lui, il va plutôt voir un petit peu ce qui se passe dans les années 70 et puis les conditions de l'émergence du punk rock en Angleterre et aux États-Unis en particulier. Alors déjà au niveau purement musical, on a eu des groupes comme les Ramones en 75-76, les Pistols, les Clash, etc., qui ont commencé à faire un rock un peu moins structuré que ce qu'il y avait avant. Et ces groupes-là ont donné envie à d'autres de monter leur propre groupe, d'autant plus qu'ils y étaient encouragés par ces mêmes groupes. On a eu également l'apparition de fanzines. Donc les fanzines, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des magazines de fans, entre guillemets, c'est-à-dire des magazines faits à la maison, avec des photocopies, de la colue et des ciseaux, et voilà. Distribués dans les concerts, dans les bonnes librairies, partout où c'est possible. Donc, au niveau de la musique, je détaillerai un tout petit peu après. Et puis il parle un petit peu du contexte social des années 70, avec la renaissance du mouvement Libération de la Femme, que ce soit Women's Lib ou MLF, les mouvements pour l'avortement en particulier, les mouvements gays qui se bougent pas mal depuis la fin des années 70, que ce soit à San Francisco, puis un petit peu partout dans le monde, dans le courant des années 70. On a également des fins de dictature hein, en Europe, hein, avec Portugal, la Grèce, l'Espagne, hein, 74, 76, je ne me trompe pas. Et il le cite également le premier choc pétrolier en 73, montée du chômage, grosse frustration, des banlieues pauvres un peu partout, en particulier la banlieue de Londres et puis des grandes villes américaines, avec une jeunesse un petit peu frustrée économiquement parlant. Voilà. Tu fais une moue, Jean-Mathias.
Non, je disais que c'était aussi en Angleterre, si j'ai bonne mémoire, c'est aussi le grand,
je sais pas s'il faut dire Renault, mais on est en plein dans les années Thatcher.
Tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, Reagan aux États-Unis, voilà, qui a pas mal, qui était un peu la muse hein, de beaucoup de groupes.
Il faut le dire.
Voilà, une belle muse. Alors en France, il cite un exemple assez intéressant, c'est en 73, du côté de la belle ville de Besançon, l'usine LIP. Donc voilà, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à LIP ici sur Radio Libertaire dans plein d'émissions parce que ça a été quand même un événement qui a marqué le mouvement ouvrier. Donc un petit rappel, hein, c'était une usine de montres, horlogerie, hein, et qui a été mise en liquidation judiciaire, je fais vite. Et les ouvriers de cette usine ont décidé de fabriquer eux-mêmes, de distribuer, de vendre et de se partager l'argent. En gros. C'est bien ça ?
Ah oui.
Bon, très bien. Je parle toujours sous contrôle. Hein.
Oui, t'as raison. Ne prends aucun risque, t'as raison.
Non, jamais. On n'est pas là pour ça.
Au final, c'est Michel qui contrôle. De toute façon, c'est lui qui a la technique aujourd'hui.
Et donc, là, on pourrait dire, c'est un petit peu du do-it-yourself. Il y a fabrication, il y a distribution, et puis on se partage l'argent plus ou moins équitablement. C'est là que Fabien I, parce que Fabien Hein, lui parle d'autodétermination dans le sous-titre du livre. C'est vrai que là, avec l'usine LIP, on serait plutôt dans l'autogestion. La différence entre autogestion et autodétermination, c'est peut-être le choix, quand même. Parce que est-ce que les ouvriers avaient rêvé, quand ils étaient petits, de fabriquer des montres dans une usine ? C'est pas certain. Là, quand on parle d'autodétermination, c'est qu'on a affaire à des gens qui font ce qu'ils ont envie de faire, et du mieux possible. Voilà pour le définir un petit peu le vocabulaire. On va repartir un petit peu sur le milieu plutôt musical, avec donc ces petits groupes dont je parlais. Hein, quand les premières fois on a vu les Sex Pistols sur scène, les Clash, les Ramones et d'autres groupes moins connus, bah les gamins du public, ils se disaient, ah bah eux, on peut faire pareil. Ce qui n'était pas forcément le cas avec Elvis Presley ou Chuck Berry, on les écoutait à la radio et puis on pouvait prendre une raquette de tennis ou un balai et faire semblant de jouer de la guitare en sautant sur le lit. Mais jamais on pouvait s'imaginer qu'on pouvait aller sur scène. Parce que bah, y avait une virtuosité musicale, l'industrie de la musique était quand même très loin de nous. Là, non, il y avait un contact évident avec ces groupes qui étaient sur scène, qui n'hésitaient pas à parler avec le public, à les encourager à monter sur scène.
À les insulter parfois.
À les insulter, à se faire insulter. Il y a tout un petit jeu comme ça, mais ce qui a fait que ça a créé une proximité entre le public et les groupes qui n'existaient pas avant du tout. Et ça a fonctionné, hein. Ne serait-ce que par l'exemple, la plupart des groupes connus après, que ce soit les Joy Division, Damned et compagnie, c'est vrai qu'ils se sont rencontrés à des concerts punk et ils ont rencontré leurs copains là et se sont dit on peut faire pareil. Alors ça c'est un petit peu la démarche par l'exemple, mais il y a aussi des incitations complètement actives hein, de la part de certains groupes et de certains fanzines. On a par exemple le magazine Sideburns en 1976 qui a fait une page très sympathique
avec trois accords.
Alors voilà, on voit trois accords de guitare schématisés, mal dessinés à la main. On a un ré, un sol, un la, avec une petite explication où est-ce qu'il faut poser ses doigts. Et en dessous, il y a écrit « Now, form a band ». Maintenant, fais ton propre groupe. Voilà. Donc là, c'était carrément un appel à créer. Il y a eu des appels à créer par pas mal de chanteurs connus aussi, hein, comme Joe Strummer, hein, qui disait « L'important, n'est pas de savoir faire, mais de faire ». Il disait aussi, même moche, t'as ta chance quand même. On n'était plus du tout dans l'apparence. Hein. On peut avoir une sale tronche et des sales dents. Être une nana qui n'était pas filiforme et monter des groupes aussi. On n'était plus dans ce côté paillette qu'il y avait avant. Avec tous les groupes rock'n'roll ou ensuite disco qui sont apparus après le punk. D'autres groupes comme ça, comme les Dead Kennedys, assez connus aux États-Unis, avec leur chanteur charismatique Jello Biafra, qui disait « Ne haïssez pas les médias, devenez les médias ». Donc ça aussi, il l'a mis en pratique, ça a influencé pas mal de gens à prendre un petit peu d'importance et d'assurance. Et il s'est présenté quand même à la mairie de San Francisco, réussi à devenir, à être quatrième d'ailleurs avec
un succès. Ouais.
Pas mal du tout. Pas surtout avec un programme complètement aberrant en plus. Très très drôle, il a réussi quand même à aller assez loin, oui. On a Greg Ginn aussi, là je cite un petit peu des noms pour situer un peu le milieu punk. Greg Ginn, c'est celui qui a fondé SST Records, donc un label qui était tout petit au départ et qui est devenu gros. Ça, on va voir après justement le problème de ces petits labels qui sont partis de rien du tout, qui sont devenus très gros. Donc c'est lui aussi également le guitariste de Black Flag, hein, donc un groupe emblématique du punk américain. Et lui disait, si le système ne vous convient pas, créez le vôtre, tout simplement. Donc voilà, plein d'appels complètement explicites à faire par soi-même. Voilà. Alors, do it yourself, ça veut dire faire des choses. Mais alors, quelles choses en ce qui concerne le milieu musical ? Là, on parle vraiment du milieu musical. Hein, c'est Fabien Hein tourne autour de ça. Mais enfin, il est parfaitement aussi... clair que ça n'existe pas forcément que dans le milieu punk, hein, il est cité en exemple. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire par soi-même ? D'abord, Jean-Mathias, qu'est-ce que tu ferais ?
Ah bah moi je serais bien embêté, hein. Moi je demande à chaque fois je demande à Michel de toute façon.
Ah Michel il dort.
Non, il c'est le problème.
Mais alors il ferait un groupe, par exemple Michel récemment, il a essayé de faire un groupe, hein, voilà. Ouais. Il ne sait pas jouer, mais il a essayé quand même de faire un groupe. Donc ça c'est une attitude complètement punk et do it yourself, on ne sait pas jouer mais d'abord on se trouve des potes. Éventuellement après des instruments ça peut aider. Et puis après on essaye de voir comment ça fonctionne.
La question c'est après,
après...
Je pense à Michel mais c'est... faut aller au-delà.
Après, tout à l'heure, on écoutera un petit groupe qui s'appelle Minutemen, et là, on peut les citer un exemple assez rigolo, une petite anecdote quand même. Donc, le bassiste de Minutemen, c'est Mike Watt, qui est devenu un des bassistes les plus reconnus. Il joue avec les Stooges maintenant, il a joué avec plein de formations de jazz, etc. Et au départ, il croyait qu'une basse, c'était une guitare où il manquait des cordes. Il en voyait trois, mais il voyait mal sur les photos de pochettes de groupe rock. Et puis, finalement, il a fini par s'acheter une vraie basse, parce que le mec dans le magasin lui a dit ce que c'était. Et il pensait au départ avec son groupe que les cordes on les mettait comme on voulait, c'était une question de choix, de goût, soit des cordes molles, soit des cordes dures. Donc ils ont fait pas mal de concerts sans savoir du tout ce que c'était que ça cordait, quoi. Voilà, pour montrer l'esprit. Ça n'a pas empêché de devenir un des groupes emblématiques du punk américain et ça a donné des musiciens assez exceptionnels.
T'en as parlé à Michel de ça ou pas ?
C'est un peu son exemple, hein, ouais, c'est un peu son maître à la basse. Organiser, monter son petit groupe, apprendre à jouer, c'est presque, ça va tout seul, hein. Quand on a envie, ça se fait. Bien ou pas bien, on s'en moque, hein. Il y a des groupes très mauvais qui ont fait des choses très, très sympas. Et puis, faut jouer après. Alors jouer, ça veut dire, il faut organiser des concerts. Alors l'organisation de concerts aussi, c'est tout un problème, surtout au début du punk, parce qu'on voyait des petits jeunes comme ça de 14, 15, 16 ans, avec des crêtes, des épingles à nourrice, tout ce qu'on veut, différentes modes selon les villes des États-Unis ou d'Angleterre. Et puis les patrons de bar les voyaient débarquer, on peut jouer chez vous. Non, pas forcément a priori. Donc réussir à convaincre des gens. Si on n'arrive pas à convaincre des gens, il faut trouver des lieux. Et si on trouve un lieu, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des amplis, on cherche des tables de mixage, on cherche du son. Admettons, on y arrive, on a un groupe, on a une salle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un peu de pub, pour faire venir quand même des gens. Donc là, c'est de la diffusion, du tractage, de la photocopie au boulot, à l'école, réussir à piquer quelques dollars pour faire des photocopies noir et blanc et les distribuer comme on peut. Alors voilà, on arrive à faire tout ça, et puis on se fait un petit concert qui rameute entre 3 et 3000 punks, ce qui arrive aussi pour des groupes inconnus à l'époque, surtout aux États-Unis où ils avaient des lieux souvent très très grands, quoi, des grands hangars. Et voilà, admettons le groupe a un petit peu de succès, et, les gens demandent, t'as pas un disque ? Ah bah non, pas encore, pas encore. Là, faut faire son disque. Ça fait beaucoup de choses à faire déjà, quand même. Et là, on a l'exemple des Buzzcocks, en 77, en Angleterre, donc aussi un des groupes phares du début du punk, qui a enregistré son premier 4 titres, un petit EP 4 titres, qui s'appelle Spiral Scratch. Ça a été enregistré en 3 heures, mixé en 2 heures, tiré à 1000 exemplaires au départ. Ils en ont eu pour à peu près l'équivalent de 3 500 €. Vendu par correspondance, en dépôt chez quelques disquaires, au concert, etc. Ça a tellement eu de succès qu'en 6 mois, ils ont dû en rééditer, en represser 16 000 exemplaires. Voilà. Donc à nouveau, une petite histoire de réussite avec très très peu de moyens. Là voilà, un petit peu pour les conditions de ce qu'il faut faire très, très physiquement. On va faire une petite pause musicale avant de passer à la suite et de rentrer un petit peu dans le concret de l'économie. Si ça part.
Well, the name is Crash, not Clash. They can stuff their punk credentials. It's them that take the cash. They won't charge enough for their festival tool. RAR badges and their protest wall. Bands of white men standing in a park. Objected to ISIS, the can in the dark. Black man's got his problems, he's right to deal with it. Tonight, pull yourself up with your white liberal shit. If you care to take a close look at the way things really stand. You'll see we're all just niggas to the rulers of this land. Punk was once an answer to 2 years of crap. A way of saying no, we'd always said yep. The moment we saw a way to be free. They invented a dividing line through credibility. The qualifying factors of politics and class. Lefty macho dream fighters willing to cast. They stepped on a racism, a gather on the street. It was down to a form of fashion for the social elite. Bigotry and blindness, a Marxist god. Another clever trick to keep us all in line. Neat little labels to keep us all apart. Keep us all divided when the travels start. Spit upon a Jew. Vicious minus violence, that offers nothing new. Left-wing violence, right-wing violence, all seem like the same. Bully boys out fighting, it's just the same old game. Boring fucking politics, still get us all shot. Left-wing, right-wing, you can stuff the lot. Keep your petty prejudice, I don't see the point. Anarchy and freedom is what I want.
Big ass, 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 big
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Denis Maître ni publicité, c'est Jeudi Noir.
Alors, oh, c'est sympa ça comme intro.
C'est sympa. Alors je précise tout de suite que donc, ce soir c'est Michel qui a la technique et en fait il semblerait que le lancement de l'émission ait quelques petits problèmes au démarrage. Donc voilà, si vous avez des réclamations à faire, si vous êtes complètement perdu, sachez que on parle ce soir de deux petits livres qui sont consacrés au mouvement punk. Le premier s'appelle Do It Yourself de Fabien Hein. C'est un petit livre qui vient d'être publié là au Passager Clandestin et dont José a commencé à nous parler tout à l'heure. Et puis en complément, on avait aussi apporté un petit livre ce soir qui s'appelle La philosophie du punk, rien que ça, histoire d'une révolte culturelle d'un certain Craig O'Hara. Alors c'est un peu plus ancien, ça date de 2003-2004 pour la traduction française, un peu moins intéressant aussi selon nous, donc on en parlera un petit peu à la fin rapidement, mais pour l'instant on est en train de discuter sur ce livre là, Do It Yourself, que José nous présente. Vous venez d'écouter à l'instant deux morceaux du groupe anarcho-punk britannique Crass, donc c'est deux extraits de l'album Station of the Cross. Et le premier morceau qui suivait le lancement tout de suite, donc que j'ai présenté bien entendu, mais qui a été squeezé par un hold-up technique, c'est donc un extrait de Fugazi de l'album Repeater. Et voilà, donc de groupe dont il est question abondamment dans les deux livres dont on vous parle ce soir, consacré donc à l'histoire du mouvement punk, de la musique punk, et surtout, puisque c'est ça dont tu vas nous parler maintenant, José, de oui, toute la manière dont finalement ce mouvement a essayé de mettre en place des structures de production, de distribution, de diffusion, dans une logique d'autonomie à l'égard de l'industrie musicale.
Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. C'est vrai que ça vaut le coup de lire ce petit bouquin de 170 pages, pour 12 € un TTC, où c'est vraiment très détaillé, et puis voilà, hein, c'est fait par un maître de conf à l'université de Lorraine, quand même,
ça, hein,
voilà,
ça,
qui parle beaucoup mieux que moi et qui saura mieux dire les choses. Ouais. En tout cas, ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est son aspect critique, justement, par rapport au do it yourself. C'est pas du tout, il n'y a pas d'angélisme du tout. Il pense pas que le punk a tout inventé, a créé un marché à part, qu'ils ont inventé une autre forme de, en dehors du système, hein. Là-dessus, c'est vraiment intéressant son point de vue. Bah, on va rentrer un petit peu dans le détail quand même. Donc là, juste avant, en espérant que les micros marchaient avant, on a parlé du contexte un petit peu avec tous ces petits groupes, et puis ces petits groupes qui sont apparus, ce qu'ils ont dû faire, hein, rapidement, faire un groupe, là, organiser des concerts,
juste des disques, etc. Deux secondes, là, c'est en fait Michel met en application le do it yourself, en fait il est parti, donc on a plus de technique, et là on fait vraiment tout nous-mêmes quoi, avec José, ce soir faut le savoir.
C'est ça. Il nous a dit fais-le toi-même.
Il nous a dit voilà, donc voilà où on en est.
Magnifique, faut espérer que les micros vont pas sauter. Bon alors, donc je disais, on va un petit peu rentrer dans le détail. Alors il y a de nombreux labels qui se montent à cette époque-là, hein, à partir de 76, 77, jusqu'à 80, ça se compte par dizaines en Angleterre, par centaines aux États-Unis, plus ou moins éphémères, quelques gros qui arrivent à continuer, et justement c'est sur cela que Fabien Hein se focalise pour montrer un petit peu les problèmes. Quand on a un petit label qui sort son 45 tours à 100 exemplaires et qui les vend et qui disparaît après, il n'y a pas plus de problèmes que ça économiquement, il n'y a pas de poids, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment d'enjeu, ça se passe très bien. À partir du moment où un label perdure et commence à vendre, là on peut commencer à se dire... Où est l'indépendance? Je rappelle que le sous-titre du livre, c'est Autodétermination et culture punk. Et quand il dit autodétermination, il parle aussi d'autogestion, d'indépendance énormément dans ce livre, en expliquant vraiment les nuances, bien sûr, de chacun des termes. Alors donc, de nombreux labels se montent pourquoi? Au départ, c'est parce que c'est parfois contraint, justement, ça le souligne bien. Les labels ne veulent pas de ces groupes-là, donc on est obligé de faire par soi-même. Ça se comprend, pas de souci. Un groupe veut jouer dans une salle, la salle ne veut pas, obligé de trouver sa salle, etc. etc. D'autres aussi par choix, simplement. Ils auraient pu très bien être acceptés par le système le système de l'industrie du disque, des concerts, etc., sans souci. Et ils ont fait un choix radical, justement, de tout faire par eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a passé aussi en introduction Fugazi, hein, qui est l'exemple cité par Fabien Hein, qui met en parallèle avec à la fois l'industrie musicale majoritaire, les majors, et puis le système Crass aussi en Angleterre.
Système Crass, du nom du groupe.
Voilà, le deuxième qu'on a passé.
Voilà. Ah, mais il y a un fil, hein, faut pas croire.
Non, c'est préparé. Hein. C'est vrai que là, j'ai pris des post-it de taille A4 aujourd'hui, donc ça change un peu d'il y a deux semaines. Donc les labels se montent, et puis quand le succès est là, le label devient un petit peu gros, les groupes aussi, et il y a des questions qui se posent à ce moment-là pour continuer de fonctionner ou pas en do-it-yourself. Hein. Le choix est là. Alors les groupes ont fait différents choix. Nous, on va parler de ceux-là dans un premier temps, qui continuent d'être sur du do-it-yourself, et de voir un petit peu quelle est leur démarche par rapport à la démarche des majors au niveau économique. On parle d'entreprise punk. Fabien Hein n'hésite pas à dire le mot, il n'a pas de tabou là-dessus. C'est bien une entreprise qui est montée. On fabrique des choses, on les vend. On est sur un marché. Donc, on imagine un petit label, elle investit de l'argent, elle vend son disque, elle en gagne un peu, le groupe est payé. A priori, quelle différence avec une majors qui fait juste ça à grande échelle? Est-ce qu'il y a seulement une différence d'échelle? Ou est-ce que justement le fait d'être petit, ne serait-ce que d'être petit, ou alors d'avoir une ligne de conduite, disons, stricte, change complètement par rapport au système de marché. Donc là, il oppose complètement la dynamique libérale et la dynamique, entre guillemets, libertaire du do-it-yourself. Et on est sur Radio Libertaire quand même. Ouais. Donc on fait le lien tout de suite, cohérence quand même. Alors, la dynamique libérale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche?
Le profit.
Bah, le profit, voilà. Le profit, t'as même pas regardé ton anti-sèche. Donc le profit, complètement. La dynamique libertaire de ces labels cherche surtout l'indépendance structurelle. Indépendance structurelle qui va leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Contrairement à une dynamique libérale où ce n'est pas ce qu'ils veulent c'est juste l'argent, peu importe le moyen. Je dis ça de manière très caricaturale, on verra qu'il y a des cas un peu limites aussi entre les deux. Une dynamique libérale, ça cherche à augmenter avant tout ses ressources au maximum. Dans le do-it-yourself, on est dans des ressources délibérément limitées. On cherche vraiment à limiter ses ressources de manière à pouvoir les contrôler également, ne pas se laisser déborder par ça. Dans la dynamique libérale, on cherche un enrichissement individuel. Dans la dynamique libertaire, c'est plutôt l'intérêt commun qui va l'emporter. Que ce soit l'intérêt commun au niveau de la production, du groupe, etc. Et justement, la frontière n'est pas vraiment définie entre les différents acteurs du do-it-yourself. Donc on se retrouve avec deux systèmes finalement les mêmes. On crée un disque et puis on le vend. Mais l'orientation est diamétralement opposée. Donc ça ne pose pas trop de soucis, comme je le disais tout à l'heure, quand le gain est faible, voire négatif. Ça s'appelle pas du gain, je crois, mais la perte, il me semble, en économie, mais bon... J'ai pas fait un deuil d'écho. Et jusque-là, bon, ça se tient, on peut comprendre ça assez facilement.
Donc en fait, t'as une différence d'échelle, c'est-à-dire on reste à une échelle réduite,
ouais.
Qui permet de contrôler ce qui rentre et qui sort, en gros. Et l'autre différence, c'est qu'on cherche pas à grossir par tous les moyens.
Voilà. Au contraire, on veut toujours maîtriser ce qu'on est en train de faire. Okay. Voilà. Donc effectivement, il y a une différence quand même d'attitude par rapport au marché. Et puis, on a le cas par exemple de Discord. Alors Discord Records, c'est le label de Washington qui a été créé par les membres de Fugazi qu'on a entendu au début.
Et qui marche.
Et là, d'un seul coup, des questions se posent. Quoi. Il marche, mais non seulement il marche, mais il marche énormément. C'est-à-dire que c'est un label qui arrive maintenant à vendre des millions de disques par an. C'est gigantesque. Il a beaucoup de groupes un petit peu connus. Et aux États-Unis, rien que sur le marché américain, dès qu'on est un petit peu connu, c'est déjà énorme. Et sans parler de Fugazi qui rapporte énormément d'argent là-dessus. Alors, énorme réussite, ils ont eu des tentatives de rachat par d'énormes majors à la Universal et compagnie, qui sont venus avec des chèques de plusieurs
Fugazi,
millions de dollars.
Tu rappelles la chronologie là, au départ, donc c'est un groupe qui s'appelle Minor Threats.
Voilà, Minor Threats, c'était un groupe en 80-81, les inventeurs un peu du hardcore, entre guillemets, ont fait vite. Et qui ont tout de suite, dès le départ, eu une attitude d'ultra-indépendance et de méfiance vis-à-vis des majors. américaine.
Et donc Fugazi enchaîne derrière, donc c'est une histoire qui a déjà peut-être une trentaine d'années quand même.
Oh bah oui, 81, on est en 2012, ouais c'est ça. Une trentaine d'années que le label existe et où ils sortent uniquement, une petite chose intéressante quand même, ils ont décidé pour garder le contrôle de ce qu'ils faisaient, de ne sortir que des groupes de Washington DC. Et légèrement alentour. Donc ils sont énormément sollicités par d'autres groupes du monde entier en disant j'aime bien ce que vous faites, vous pouvez sortir le disque. Eux, ils ont tenu leur ligne depuis 30 ans, ils disent non, nous on fait ça localement parce qu'on connaît les groupes, ce sont des amis, on va les voir en concert, si on a un souci avec eux, on va cogner à leur porte.
Ouais, c'est le principe des AMAP
c'est ça. Corps, quoi. C'est ça. C'est ça. Sauf qu'il n'y a pas besoin de faire de permanence avec un panier peut-être. Voilà. Et en revanche, ils encouragent complètement à monter le même genre de structure ailleurs. Ils sont prêts à donner un coup de main, faire des concerts de soutien pour d'autres structures ailleurs dans le monde. Ce qui ne s'est pas vraiment monté. Finalement, c'est un peu la seule réussite Discord à cette échelle-là. Ce que regrette un petit peu Yann Maquet, donc le patron entre guillemets de Discord. Alors, ils sont à l'heure actuelle en train de vendre des millions de disques et ils sont quelques-uns, ils doivent être 8 maintenant. Il a réussi à avoir 8 employés, donc là on parle vraiment d'entreprise. Ça fait quelques années qu'il réussit à les payer, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Donc ils avaient un tout petit bureau, une maison, et où ils pliaient eux-mêmes leurs pochettes de disques, ils les collaient à la main, ils faisaient les agrafes et ils les envoient eux-mêmes. Au prix le moins cher possible, c'est un léger profit, très léger profit à chaque fois, qui est réinvesti dans son intégralité dans la production de nouveaux disques. Voilà. Donc il n'y a pas d'enrichissement personnel du tout. Sauf que là, depuis quelques années, ils vendent tellement que l'enregistrement personnel, c'est difficile à éviter finalement. Ouais. Contre leur volonté, ils se retrouvent riches. Ils peuvent pas sortir autant de disques qu'ils pourraient. Ils peuvent pas réinvestir les millions qu'ils gagnent à produire des disques. Ils trouvent pas assez de groupes dans leur région. Alors, ce qu'il a fait, Yann Maquet, s'est posé la question. Il a dit "Bah, je vais offrir une assurance maladie à mes employés, à mes 8 employés. Voilà." Pour qu'il n'y ait pas de gain personnel.
C'est un patron sympa, quoi.
Un patron sympa, mais voilà, merci, c'est ça. Patron, un patron sympa. Merci, patron. Un patron pas riche, déjà.
Ouais.
Ce qui fait quand même une petite différence. J'avais commencé à dire, oui, tout à l'heure, qu'il y avait des majors qui avaient offert des ponts d'or pour acheter Discord. Hein. On parle de millions de dollars, des patrons qui se déplacent en personne, les voir à la sortie des concerts en disant « Je me suis déplacé une fois dans ma vie. La dernière fois, c'était pour les Stones, maintenant, c'est pour vous. » Et donc, ils se font les conduire gentiment. C'est toujours un refus. Et ce genre d'attitude, ça se ressent concrètement, non seulement sur le prix du disque, mais il y a un exemple qui est cité justement dans ce bouquin Do It Yourself, où sont comparés deux groupes indépendants, entre guillemets. Alors, on ne dit pas rock indépendant, parce qu'en ce moment, rock indépendant, c'est synonyme de rock inoffensif, hein, c'est un truc écoutable, hein, c'est pas ça, là, on parle d'indépendance économique. Donc un concert de Fugazi organisé dans une salle aux États-Unis avec le même organisateur, il passe par les mêmes gens qui les accueillent dans la salle, coûte 5$ à la personne qui va voir, 5$ l'entrée. Le même concert à la même époque dans la même salle avec le même organisateur, un groupe comme Bad Religion. Donc Bad Religion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme groupe punk hardcore qui existe aussi depuis 30 ans et qui ont monté leur label indépendant aussi au départ, Epitaph, mais qui n'ont pas du tout la même radicalité au niveau du fonctionnement. Donc la même chose, au lieu de 5$, ça coûte 16$ le billet d'entrée. Interrogé à ce sujet, les membres de Bad Religion disent ah ouais, mais non, c'est pas possible, comment il fait, de toute façon eux c'est des moines, hein. Voilà la seule réponse qu'ils ont pu apporter.
Et ben Bad Religion, forcément.
C'est ça.
Non, c'est pas bien. De rien.
Joli. 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 Voilà. Donc là, Fabien Hein, qui est assez fan de Fugazi, ça se sent dans le bouquin. Hein. Il met en avant le pragmatisme à l'américaine, le stoïcisme, l'autodiscipline, le travail sur soi de Yann Maquet et de ses potes. Et c'est vrai que c'est mis en avant aussi dans les paroles, dans l'attitude, dans les interviews de ces membres-là, qui ne boivent pas, ne fument pas, etc., hein, depuis 30 ans. Pff, les pauvres.
Ils n'ont pas besoin d'assurance maladie, alors.
Ouais, mais après, tu sais, le tabac passif, c'est pas évident.
C'est vrai.
Il y a des autres qui sont méchants.
On parle pas assez.
Et il met en opposition justement ce pragmatisme de Discord avec le côté plus utopiste de Crass, le deuxième groupe qu'on a écouté, donc qui est britannique, hein, anglais.
Qu'est-ce qu'on fait? On en parle tout de suite ou on se fait une petite pause?
On va sur une pause parce que je suis pipelé.
Moi, je fais une petite parenthèse sur Crass là, que, parce qu'il y a un petit bouquin que je recommande. Alors, je sais, il n'est pas facile à trouver ce bouquin, mais il y a des gens qui ont pris le temps de traduire toutes les paroles de toutes les chansons de Crass et qu'on groupé ça.
J'ai vu ça.
Un petit bouquin qui s'appelle joliment Chansons d'amour. Donc, je recommande à tout le monde parce que pour le coup, là, c'est une entrée. Pour ceux qui sont pas forcément anglophones, et puis l'addiction de Crass c'est pas toujours très accessible, hein. Mais donc là vous avez tous ces textes traduits en français et qui permettent de rentrer dans l'univers de ce groupe là, hein, qui est assez fascinant.
Bah, si vous allez à des concerts do it yourself, justement, souvent les distributeurs de disques ont un petit exemplaire dans le bac parce que c'est un bouquin assez apprécié.
Ouais. Voilà, petite pause musicale. Ça arrive, hein. On rappelle que c'est Michel qui s'occupe de la technique ce soir.
Tu nous chantes une chanson, Jean-Mathias ?
Ouais, je peux vous interpréter un petit truc en attendant, mais ça va arriver. Donc toujours Radio Libertaire, toujours 89.4, toujours Jeudi Noir, avec ce soir cette particularité que on a un technicien... débutant qui n'a pas allumé la table de mixage mais qui va l'allumer, et donc on vous parle ce soir de deux petits livres consacrés à l'histoire du mouvement punk. Le premier, Do It Yourself, à propos duquel José est en train de parler, et puis un deuxième petit livre aussi qui s'appelle La philosophie du punk, un peu plus ancien, qui reprend un peu l'histoire de ce mouvement-là, et puis de ce que tous ces groupes et tous ces fans ont essayé de mettre en place depuis maintenant plus d'une trentaine d'années pour essayer de garder leur indépendance en termes de production, en termes de contenu aussi, et puis en termes d'indépendance musicale. Toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Denis Metni, publicité, c'est Jeudi Noir. Consacré ce soir à
Fugazi.
Fugazi, vous venez de vous en rendre compte. En fait, on vous parle de deux bouquins qui sont consacrés à l'histoire du mouvement punk, en particulier qui s'appelle Do It Yourself, qui a été publié là tout récemment aux éditions du Passager Clandestin. Vous venez d'écouter pour la deuxième fois Fugazi, dont il est question. Comment ça se fait? Dont il est question assez largement dans le livre dont nous parle José là. Tout un peu des raisons techniques toutes bêtes, c'est que en fait on a un petit problème de platine vinyle. Donc on vous remet du Fugazi, c'est pas grave, c'est très bien. C'est bien, c'est en plein dans le sujet. Juste, je me permettais de faire remarquer à José et Michel qu'on a quand même là avec Fugazi un groupe. Moi, je veux bien essayer de faire pareil, hein, Do It Yourself, mais bon, quand même.
Ils sont partis de rien, pourtant ils n'ont pas fait le conservatoire.
C'est vrai.
Ils l'ont fait. C'est tout. Ouais. Fais-le. Do it. Alors, c'est pas une émission sur Nike, hein, on rappelle. Hein, sur Radio Libertaire. Alors, donc.
Tu voulais nous parler de Crasse un petit peu, juste avant.
Alors, très, très rapidement, ouais. C'est parce que Fabien Hein en parle. Hein. Bon, ça me fait plaisir aussi d'en parler. Mais il le dira beaucoup mieux que moi si vous lisez le bouquin. Hein. Il comparait en fait le pragmatisme américain de Discord, où ils font tout justement pour que l'argent aille à tel endroit et pas tel autre, qu'il y ait une maîtrise totale de tout. Par rapport à la radicalité plus utopiste, dit-il, de Crass, eux qui viennent plus d'un milieu hippie avec Penny Rimbaud qui est un petit, beaucoup plus âgé quand même que les gens de Discord.
Alors rapidement, tu nous rappelles la chronologie sur Crass un petit peu, d'où ils viennent.
Alors Crass, c'est vers 76-77 qu'ils se sont formés. Au départ, c'est un groupe punk comme les autres, voilà, avec des beuveries, etc. Et puis très rapidement, ils ont été dégoûtés de ce qu'ils voyaient autour d'eux, avec les punks à crête rouge, la mode, de Malcolm McLaren, etc. Et ils ont eu un tournant politique radical et anarchiste, où ils ont commencé à faire beaucoup de propagande dans Londres et ses alentours, voilà, avec une radicalité au niveau de plein de thèmes comme le végétarisme, l'anti-guerre, etc. Beaucoup de très bons tours joués au gouvernement de Thatcher à l'époque, avec des fausses bandes qui ont été mises. Il faut faire une émission spéciale sur toutes les petites anecdotes autour de Crass, assez rigolo si vous voulez vous renseigner là-dessus. Puis tu connais bien aussi Jean-Mathias Crass. Tu voulais rajouter quelque chose.
Rien, c'est juste pour qu'on situe un petit peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un groupe, ce qu'on appelle les anarcho-punks, qui ont une place un petit peu à part dans l'histoire du mouvement punk, y compris en Angleterre. C'est-à-dire que pour le coup, il y a une option politique très très forte. Et puis même du point de vue musical, ça ressemble pas à grand-chose d'autre en fait. Hein, pour quand même dire les choses.
C'est ça.
Voilà, donc. Mais oui, on aime bien.
Alors voilà, donc l'auteur de Do It Yourself, lui, met en parallèle, même en opposition, hein, le côté plus hippie, radical de Crass, où c'est pas de concession sur rien, mais qu'au niveau pratique et gestion de la thune, ils sont moins bons quand même, quoi. C'est un peu plus bordélique, c'était pas leur premier souci.
Ils sont plus artistes.
Voilà, c'est ça, le côté artiste, ouais. Et c'était la politique avant tout, et le côté économique a prenait un petit peu moins de place chez eux.
Ouais. Maintenant, c'est ce qu'on se disait à la pause, effectivement, ils sont toujours en vie, hein, pour la plupart les membres de Crass. Mm-hmm. Et donc, ils ont monté une espèce de communauté anarcho-punk dans le sud du Pays de Galles, il me semble.
Quelque chose comme ça, oui.
Où ils font des collages.
Des stages de plantage de patates bio et tout ça, quoi.
Voilà. Ce genre de choses.
Des gens très sympas, cela dit. Voilà, et justement là on arrive aussi à un petit côté tendancieux, hein, c'est que Fabien Hein, qui est quand même un petit peu coquin, hein, sur le coup, sur la fin, il fait remarquer que Fugazi, qu'il adore, est distribué par tout de même Southern Records, donc un label, un distributeur très indépendant, etc. Mais quand même, ce même distributeur profite du réseau de Fontana Records. Et Fontana, ils appartiennent à qui?
Éclaire-nous. Grand Dieu.
Vous appartenez à qui? Ah, Universal. Donc, quelque part de lien en lien, hein, soit on retombe sur Nestlé, soit sur Universal, et même Discord, avec son côté on contrôle tout, on contrôle tout.
Même les moines soldats.
Ils ont un petit pied là-dedans quand même. Et là, ils se rendent compte que c'est très très difficile d'échapper totalement à l'économie de marché. majoritaire en tout cas, même si c'est pas sur le système. Voilà, en tout cas, il est possible de me faire une économie dans l'économie. C'est un petit peu la conclusion de Fabien. D'accord.
Moi, j'avais une petite question peut-être à te poser pour terminer. Est-ce qu'il parle un peu de la France ? Parce que oui. La France est un cas un peu spécial. Bon, on a eu au début des années 80 ce qu'on appelait le rock alternatif avec les Beru, évidemment. Et puis quelques groupes autour quand même. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit de ça ? Parce que ça a toujours été. Peut-être à une échelle. Bon, mis à part le cas Beru et puis Mano Negra, avec après le succès de Manu Chao,
combien de chasse hein. Et de tout ça,
voilà,
Boucherie
de production, tout ça. Bon. Voilà. Mais on est. Est-ce qu'il y a une, voilà, comment ça s'est passé chez nous ?
Alors, il en parle très très peu de l'exemple français. Il cite vraiment les Beru au départ, ouais. Surtout au point de vue musical. Mais là, c'est vraiment pas beaucoup abordé dans le bouquin. Mmh. Et ça manque un petit peu parce que. Bon, il peut pas tout dire dans le bouquin, mais. Ça aurait été intéressant aussi de... Il parle un petit peu de Gumiaf Mouvement et tout ça, mais c'est vraiment au passage. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aussi de nos jours. Hein, en fait,
bien sûr.
Toujours une disserte de philo, on va à la fin sur ce qui se passe de nos jours. Hein. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour les Parisiens en particulier, mais ils sont très actifs partout en France, on a pas mal d'organisateurs de concerts, de labels, etc., entièrement do-it-yourself. On avait déjà parlé ici une fois de Emoncus et du Tofu, En veux-tu, Ovla, des gens comme ça, One 28.
Et Barricata et tout ça aussi. Bon, quoi.
Je connais un peu moins.
Ouais.
Mais voilà, donc c'est aussi des labels et des organisateurs de concerts qui perdent de l'argent systématiquement.
Ouais.
Quand ils arrivent à en gagner un petit peu, ils essayent tout de suite de réinvestir dans la production d'un autre disque, etc. Donc des gens hyper actifs et qui sont des militants du do-it-yourself complet. Et donc ça serait pas mal un jour de consacrer un bouquin à ce qui se passe en ce moment avec Madame Macario et compagnie.
Pour voir effectivement, parce que c'est des... Enfin, il y a eu, dans le sillage des Beru, il s'est passé quelque chose quand même effectivement en France.
Complètement. Ce qu'on appelait le rock alternatif après, ça n'a pas été rien. Oui.
Et Bondage Records, la bête des Beru et tout ça, ils ont vendu aussi beaucoup. Hein.
Complètement,
donc,
complètement. Ça a créé aussi des petites histoires, etc. Mais il faudrait qu'on invite quelqu'un de l'époque pour nous en parler, parce que...
Voilà.
On risque de dire des choses un peu fausses. On est trop jeune. On est vous le dire, on a 22 ans. À nous deux.
Donc,
on n'a pas connu tout ça.
À nous deux, là, non. Mais donc pas grand-chose sur le.
Non, sur ce bouquin-là, non.
Le do it, sur le fais-le toi-même, en fait, si je puis me permettre.
C'est ça. Donc, juste un tout petit truc avant que tu parles de ton bouquin, excuse-moi. C'est juste un petit problème. J'ai pas fait mon point 3 ni mon point 4. Mais bon.
Vas-y.
Non, juste le problème que rencontrent aussi les labels do it yourself, c'est qu'ils ont parfois l'impression de faire le sale boulot. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a freiné pas mal. C'est-à-dire qu'ils font tout pour monter un groupe. Et une fois que le groupe est prêt, il est récupéré
racheté.
Par une major,
etc.
Voilà. Et puis aussi l'aspect mode du punk qui est très prégnant. Il en parle beaucoup, justement, Fabien Hein. Qui fait que c'est aussi un terrain où les publicitaires ont de quoi faire. Le marketing également. Les fringues, la zik qui finalement est très bien acceptée passe-partout, le skate, etc. Tout ça, c'est aussi propice à la récupération et ils ne s'en sont pas privés. Bon, je te laisse parler de ton.
Très rapidement. Donc, effectivement, on a choisi de parler surtout de Do It Yourself, là, parce que moi, le petit bouquin. Que j'avais amené ce soir là, la philosophie du punk de Craig Warren, histoire d'une révolte culturelle. C'est un peu, si vous voulez, le mouvement punk pour les nuls, en fait. Ça aurait été peut-être un peu moins clinquant comme titre, mais ça ressemble plutôt à ça. Donc vous avez pareil, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bonne présentation un petit peu générale. Vous avez beaucoup de photos. Alors pareil, centré plutôt sur le mouvement punk américain. Mais aussi britannique et français aussi. Vous avez à la fin une petite quelques pages sur justement la période rock alternatif, entre autres. Donc voilà, si ces questions-là vous intéressent. Et puis donc j'ai vite fait. Après sur le fond, c'est un petit peu décevant sur Là, on sent qu'ils cherchent un petit peu à faire comme si il y avait un vrai programme culturel d'ampleur dans le mouvement punk. Bon, c'est pas tellement ces termes-là qui nous semble qu'il faut en causer. Donc voilà, faut pas non plus s'attendre contrairement à ce que laisse entendre le titre, à quelque chose de vraiment édifiant là-dessus. Bon, et puis voilà, non, pour terminer là-dessus, y a le petit bouquin dont on parlait tout à l'heure, là, la traduction des chansons de Crass, la chanson d'amour. Si vous tombez dessus, on vous le recommande. Voilà, et puis...
Et puis Chéri Trut, hein, l'éditeur de la philosophie du punk, il y a pas mal de choses bien, il faut aller sur leur site, ouais. En particulier Going Underground, qui est un bouquin avec pas mal d'illustrations également, et là c'est vraiment le parcours d'un ricain, tous les groupes qu'il a rencontrés, beaucoup d'anecdotes super drôles, et d'autres moins drôles, qui montrent vraiment un peu les coulisses de ce milieu, les bons et les mauvais côtés, racontés un peu au quotidien, de manière toujours très vivante.
Voilà. Donc tous ces petits bouquins pour essayer, voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce mouvement-là, qui connaissent déjà un petit peu ou qui ont envie de découvrir, et surtout pour essayer de, voilà, pour comprendre que ce mouvement-là, il a en quelque sorte sa façade et puis ses têtes d'affiche, hein, donc voilà, les Sex Pistols, les Clash, et compagnie, et puis il y a tous ceux qui ont cru d'une certaine manière et puis qui ont pris le pas derrière et avec évidemment voilà beaucoup de choses intéressantes. C'est un petit peu de ça dont on voulait vous parler ce soir. On termine avec une dernière plage musicale. Ça va être du crasse, hein.
Ce que ça va être.
Ça va être du crasse parce que on est un peu court en termes de. Non, Michel me fait non.
Il veut passer du Fugazi.
Ça va être encore du Fugazi. En fait, c'est une émission spéciale. Spécial Fugazi, c'est très bien Fugazi. C'est très bien.
Il y a plein de vinyles sympas, c'est dommage.
Voilà, mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà, et bien on vous donne rendez-vous à dans 15 jours. C'était Jeudi Noir sur Radio Libertaire. À la prochaine.
Bisous.